Dans le cadre de la programmation transversale alimentation, voici une interprétation illustrée de...
Modeste proposition.
Pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à charge à leurs parents et à leur pays et pour les rendre utiles au public.
Par Jonathan Swift.
C'est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville ou voyagent à la campagne que de voir les rues, les routes et les portes des cabanes encombrées de mendiants que suivent 3, 4 ou 6 enfants, tous en haillons et importunant chaque passant pour avoir l'aumône. Ces mères, au lieu d'être en état de travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer tout leur temps à mendier de quoi nourrir leurs malheureux enfants qui, lorsqu'ils grandissent, deviennent voleurs, faute d'ouvrage, ou quittent leur cher pays natal pour s'enrôler au service du prétendant en Espagne, ou se vendent aux Barbades.
Tous les partis tombent d'accord, je pense, que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras, sur le dos ou sur les talons de leur mère, et souvent de leur père, est, dans le déplorable état de ce royaume, un très grand fardeau de plus. Hein ? C'est pourquoi quiconque trouverait un moyen honnête, économique et facile de faire de ses enfants des membres sains et utiles de la communauté, aurait assez bien mérité du public pour qu'on lui érigeât une statue comme sauveur de la nation.
Mais ma sollicitude est loin de se borner aux enfants des mendiants de profession. Elle s'étend beaucoup plus loin, jusque sur tous les enfants d'un certain âge, qui sont nés de parents aussi peu en état réellement de pourvoir à leurs besoins, que ceux qui demandent la charité dans les rues.
Pour ma part, ayant tourné mes pensées depuis bien des années sur cet important sujet et mûrement posé les propositions de nos faiseurs de projets, je les ai toujours vus tomber dans des erreurs grossières de calcul. Il est vrai qu'un enfant dont la mère vient d'accoucher peut vivre de son lait pendant une année solaire avec peu d'autres nourritures. Et c'est précisément lorsque les enfants sont âgés d'un an que je propose de prendre à leur égard des mesures telles qu'au lieu d'être une charge pour leurs parents ou pour la paroisse, ou de manquer d'aliments et de vêtements le reste de leur vie, ils contribuent, au contraire, à nourrir et en partie à vêtir des milliers de personnes.
Un autre avantage de mon projet, c'est qu'il préviendra ces avortements volontaires et cette horrible habitude qu'ont les femmes de tuer leurs bâtards. Habitude trop commune, hélas, parmi nous. Ces sacrifices de pauvres petits innocents qui arracheraient des larmes de compassion au cœur le plus inhumain, le plus barbare.
Bon. La population de ce royaume étant évaluée d'ordinaire à 1,5 million, je calcule que sur ce chiffre, il peut y avoir environ 200 000 couples dont les femmes sont fécondes. Alors, de ce nombre, je soustrais 30 000 couples qui sont en état de pourvoir à leur subsistance de leurs enfants. Mais en admettant ceci, il restera 170 000 femmes fécondes. Je soustrais encore 50 000 pour les fausses couches ou pour les enfants qui meurent d'accidents ou de maladies dans l'année. Reste par an 120 000 enfants qui naissent de parents pauvres. Alors, la question est donc, comment élever cette multitude d'enfants et pourvoir à leur sort? Ce qui, comme je l'ai déjà dit, dans l'état présent des affaires, est complètement impossible par les méthodes proposées jusqu'ici. Car nous ne pouvons les employer ni comme artisans ni comme agriculteurs. Nous ne bâtissons pas de maison et nous ne cultivons pas la terre. Il est fort rare qu'ils puissent vivre de vol avant l'âge de 6 ans, à moins de dispositions toutes particulières, quoique j'avoue qu'ils en apprennent les rudiments beaucoup plus tôt.
Nos négociants m'ont assuré qu'avant 12 ans, un garçon ou une fille n'est pas du tout de défaite. Et même à cet âge, ils ne valent pas plus de 3 livres, ou tout au plus, 3 livres et une demi-couronne, à la bourse, ce qui ne saurait indemniser les parents ni le royaume, les frais de nourriture et de guenilles valant au moins 4 fois autant.
Je proposerai donc humblement mes propres idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection.
Un jeune Américain de ma connaissance, homme très entendu, m'a certifié à Londres qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est, à l'âge d'un an, un aliment délicieux, très nourrissant et très sain, bouilli, rôti, à l'étuvée ou au four. Et je ne mets pas en doute qu'il ne puisse également servir en fricassé ou en ragoût.
J'expose donc humblement à la considération du public que des 120 000 enfants dont le calcul a été fait, 20 000 peuvent être réservés pour la reproduction de l'espèce, dont seulement un quart de mâle, ce qui est plus qu'on ne réserve pour les moutons, le gros bétail et les porcs. Que les 100 000 restants peuvent, à l'âge d'un an, être offerts en vente aux personnes de qualité et de fortune dans tous les royaumes, en avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans le dernier mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table. Un enfant fera deux plats dans un repas d'amis. Et quand la famille dîne seule, le train de devant ou de derrière fera un plat raisonnable. Et assaisonné avec un peu de poivre et de sel, sera très bon bouilli le quatrième jour, spécialement en hiver.
J'ai fait le calcul qu'en moyenne, un enfant qui vient de naître pèse 20 livres. Et que dans l'année solaire, s'il est passablement nourri, il ira à 28.
J'accorde que cet aliment sera un peu cher et par conséquent, il conviendra très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants.
La chair des enfants sera de saison toute l'année, mais plus abondante en mars, et un peu avant et après, car il est dit par un grave auteur, un éminent médecin français, que le poisson étant une nourriture prolifique, il naît plus d'enfants dans les pays catholiques romains environ 9 mois après le carême qu'à toute autre époque. C'est pourquoi, en comptant une année après le carême, les marchés seront mieux fournis encore que d'habitude.
J'ai déjà calculé que les frais de nourriture d'un enfant de mendiant étaient d'environ 2 shillings par an, guenilles comprises, et je crois qu'aucun gentleman ne se plaindra de donner 10 shillings pour le corps d'un enfant bien gras. Le squire apprendra ainsi à être un bon propriétaire et deviendra populaire parmi ses tenanciers. La mère aura 8 shillings de profit net et sera en état de travailler jusqu'à ce qu'elle produise un autre enfant.
Ceux qui sont plus économes, et je dois convenir que les temps le demandent, peuvent écorcher le corps. La peau, artistement préparée, fera d'admirables gants pour les dames et des bottes d'été pour les beaux messieurs.
Quant à notre cité de Dublin, des abattoirs peuvent être affectés à cet emploi dans les endroits les plus convenables, et les bouchers ne manqueront pas, assurément. Toutefois, je recommande d'acheter de préférence des enfants vivants, et de les préparer tout chaud, sortant du couteau, comme nous faisons pour les porcs à rôtir.
Une très digne personne, qui aime sincèrement son pays et dont j'estime hautement les vertus, a bien voulu dernièrement, en discourant sur cette matière, proposer un amendement à mon projet. Elle a dit que nombre de gentlemen de ce royaume ayant détruit depuis peu leur gros gibier, elle croyait que l'on pouvait suppléer à ce manque de venaison par des corps de jeunes garçons et de jeunes filles, pas au-dessus de 14 ans et pas au-dessous de 12. Tant d'enfants des deux sexes étaient en ce moment menacés de mourir de faim, faute d'ouvrage ou de service. Mais avec toute la déférence due à un si excellent ami et un si digne patriote, je ne puis tout à fait être de son sentiment. Car, pour ce qui est des mâles, l'Américain que je connais m'a assuré, pour en avoir fait souvent l'expérience, que leur chair était généralement dure et maigre, que les engraissés ne payeraient pas les frais. Quant aux femelles, ce serait, je pense, en toute soumission une perte pour le public, parce que bientôt elles deviendraient fécondes elles-mêmes.
Je crois que les avantages de ma proposition sont évidents et nombreux, ainsi que de la plus haute importance.
Premièrement, comme je l'ai déjà fait observer, elle diminuerait considérablement le nombre des papistes dont nous sommes inondés tous les ans. Car ce sont les plus grands faiseurs d'enfants de la nation, aussi bien que ses plus dangereux ennemis.
Deuxièmement, Les plus pauvres tenanciers auront quelque chose à eux que la justice pourra saisir et affecter au paiement de la rente de leurs propriétaires, leur blé et leur bétail étant déjà saisis et l'argent une chose inconnue.
Troisièmement, attendu que l'entretien de 100 000 enfants de 2 ans et au-dessus ne peut être évalué à moins de 10 shillings par tête et par année, l'avoir de la nation s'accroîtra par là de 50 000 livres par an. Et l'argent circulera parmi nous, l'article étant entièrement de notre cru et de notre fabrication.
Quatrièmement, les producteurs réguliers, outre le gain annuel de 8 shillings sterling par la vente de leurs enfants, seront quittes de leur entretien après la première année.
Cinquièmement, cet aliment amènera aussi beaucoup de consommateurs aux tavernes, où les cabaretiers auront certainement la précaution de se procurer les meilleures recettes pour l'accommoder dans la perfection, et conséquemment auront leur maison fréquentée par tous les beaux messieurs qui s'estiment fort justement en raison de leur connaissance en cuisine. Et un cuisinier habile, qui sait comment ou engage ses hôtes, saura bien rendre celle-ci aussi coûteuse qu'il leur plaira.
Sixièmement, nous verrions une honnête émulation entre les femmes mariées qui apporteraient au marché l'enfant le plus gras. Les hommes deviendraient aussi aux petits soins pour leurs femmes en état de grossesse qu'ils le sont aujourd'hui pour leurs juments, leurs vaches et leurs truies prêtes à mettre bas. Et ils ne les menaceraient plus ni du poing ni du pied comme ils ont trop souvent l'habitude, de peur d'avortement.
On pourrait énumérer bien d'autres avantages. Par exemple, l'addition de plusieurs milliers d'animaux à notre exportation de bœuf en baril, la consommation plus abondante de la chair de porc et un perfectionnement dans la manière de faire du bon lard, dont nous manquons si fort, par suite de la grande destruction des cochons de lait qui se servent trop souvent sur notre table et qui ne sont nullement comparables, comme goût et comme magnificence, à un enfant d'un an, gras et d'une belle venue qui, rôti tout entier, fera une figure considérable à un repas de Lord Mayor ou à tout autre festin public.
En supposant qu'un millier de familles de cette ville achèteraient régulièrement de la viande d'enfant, indépendamment de ce qui s'en consommerait dans les parties de plaisir, particulièrement aux noces et au baptême, je calcule donc que Dublin en prendrait environ 20 000 par an, et le reste du royaume, où probablement il se vendrait un peu meilleur marché, les 80 000 autres.
Quant à moi, las de voir offrir depuis moins d'années une foule de futiles et oiseuses visions, je désespérais entièrement du succès lorsque je suis tombé par bonheur sur cette proposition, qui, outre qu'elle est tout à fait neuve, à quelque chose de solide et de réel, n'entraîne aucune dépense et exige peu de soins, est tout à fait dans nos moyens et ne nous expose nullement à désobliger l'Angleterre. Car cette sorte de denrée ne supporte pas l'exportation, cette viande étant d'une consistance trop tendre pour rester longtemps dans le sel. Quoique peut-être je puisse nommer un pays qui ne demanderait pas mieux que de manger notre nation tout entière sans cet assaisonnement.
Je ne suis pas tellement coiffée de mon idée que je rejette toute proposition faite par des hommes sensés qui seraient jugés aussi innocentes et peu coûteuses, aussi faciles et efficaces. Mais avant qu'on en mette une de cette espèce en concurrence avec la mienne et qu'on en présente une meilleure, je désire que son auteur ou ses auteurs veuillent bien considérer mûrement deux points. Premièrement, dans la condition où sont les choses, comment ils seront en état de trouver le vivre et le couvert pour 100 000 bouches et doses inutiles ? Et, deuxièmement, comme il existe dans ce royaume 1 million de créatures à figure humaine, que tous les moyens de subsistance mis en commun laisseraient en dette de 2 millions de livres sterling, ajoutant ceux qui sont mendiants de profession à la masse de fermiers, cottagers et journaliers avec femmes et enfants qui sont mendiants de fait, j'invite les hommes politiques à qui mon ouverture déplaira et qui auront peut-être la hardiesse de tenter une réponse, à demander d'abord aux parents de ces mortels si, à l'heure qu'il est, ils ne regarderaient pas comme un grand bonheur d'avoir été vendu pour être mangé à l'âge d'un an, de la façon que je prescris, et d'avoir évité par là toute la série d'infortunes par lesquelles ils sont passés. et l'oppression des propriétaires, et l'impossibilité de payer leurs rentes sans argent ni commerce, et le manque de moyens les plus ordinaires de subsistance, ainsi qu'un toit et d'un habitat pour les préserver des intempéries du temps, et la perspective inévitable de léguer un tel sort, ou des misères encore plus grandes, à leur postérité jusqu'à la consommation des siècles.
Je déclare, dans la sincérité de mon cœur, que je n'ai pas le moindre intérêt personnel à poursuivre le succès de cette œuvre nécessaire, n'ayant d'autre motif que le bien public de mon pays, que de faire aller le commerce, assurer le sort des enfants, soulager les pauvres et procurer des jouissances aux riches. Je n'ai plus d'enfants dont je puisse me proposer de tirer le sou, le plus jeune ayant 9 ans, et ma femme n'étant plus d'âge à en avoir.